Chapitre 35. Ludivine se réveilla en sueur, le visage collé contre le hublot glacé. Elle manquait d'oxygène. L'espace autour d'elle était écrasé, trop confiné. L'habitacle de l'Airbus ne faisait que recycler le même air étouffant. Ludivine le sentait. Il ne suffisait plus à ses poumons. La carrure de Seignon à ses côtés l'emprisonnait encore plus contre la paroi. Le siège baissé de son voisin de devant la menaçait comme si tous les murs se rapprochaient en même temps. Elle suffoquait. Elle défit sa ceinture et escalada son collègue surpris, puis Michaelis, avant de marcher dans l'allée centrale, en s'agrippant au dossier des fauteuils. La perspective du couloir dégagé traçait une ligne droite jusqu'à l'arrière de l'appareil. Un sillon clair, un espace ouvert. Elle respirait. Une hôtesse se précipita pour lui ordonner de retourner s'asseoir, à cause des turbulences, mais Ludivine lui adressa un regard si noir qu'elle gagna une minute. Elle reprit ses esprits peu à peu, balayant les lambeaux de cauchemar, maîtrisant sa crise de claustrophobie passagère. Une journée interminable qui ne semblait pas se terminer. De l'hôtel à Inverness, au commissariat pour faire un dernier point avec l'inspecteur Baines, puis la route qui n'en finissait jamais, à travers les Highlands, jusqu'à l'aéroport d'Édimbourg. Enregistrement. 3 heures de vol, et rien que des silences infinis, au milieu de tout ça pour penser, pour se souvenir, pour étouffer les sanglots. Alexis était mort depuis 4 jours, et il semblait à Ludivine qu'elle pleurait depuis des semaines. Son âme était à bout. Ils atterrirent à l'aéroport Jean-Paul II de Cracovie à 21h30. Après presque 3 heures de vol, et furent accueillis par un policier en uniforme qui les conduisit jusque dans un hôtel moderne, aseptisé mais confortable. Ludivine avait l'impression d'un déjà-vu lassant après l'épisode de l'Écosse. Il faisait nuit, froid, et elle se sentait désespérément mal, à l'autre bout de l'Europe, et sans Xanax ou Temesta pour s'abrutir dans des brumes médicamenteuses. Lorsqu'elle déposa son sac dans sa chambre, le lit blanc impeccablement fait, les rideaux rouges, la télé allumée pour lui souhaiter la bienvenue, l'odeur du désodorisant, tout ça lui donna une furieuse envie de fuir. Entre rester la tête enfoncée dans l'oreiller pour pleurer et aller se dissoudre la conscience au bar, son choix fut rapide. Elle n'avait plus de larmes, il fallait qu'elle se réhydrate. Elle en était à sa 2e bière et sa 3e vodka pomme lorsque Seignon la rejoignit.
« Toi aussi, » dit-il tout bas.
Elle acquiesça.
« Ma femme et mes gosses me manquent, » avoua-t-il, le regard triste.
« Alex me manque, » répondit-elle du tac au tac. Seignon lui frotta le dos affectueusement. Ils burent ensemble sans vraiment parler. Chacun percevait l'état d'esprit de l'autre. La mort de leurs collègues et amis les dévastait. Seignon avait sa famille pour se réconforter, mais du coup, son absence ici n'en était que plus cruelle, et Ludivine, elle, était profondément seule, à Paris, comme à Inverness, comme à Cracovie. Ils se saoulèrent, se tinrent la main, et titubèrent jusqu'à leur chambre, pour s'endormir sans réfléchir. C'était là leur unique rêve. La mine de sel de Wieliczka se situait à une grosse demi-heure de voiture de Cracovie. L'entrée était barrée par les forces de police, et une horde de touristes frustrés se mêlait aux quarts de la télé et aux journalistes venus de tout le pays pour tenter d'obtenir une image ou un témoignage des rares personnes qui pouvaient y pénétrer ou en sortir. La voiture aux vitres fumées se fraya un chemin en roulant au pas, et après avoir montré patte blanche, s'engagea vers le bâtiment principal. Celui-ci était plutôt moderne pour un endroit si ancien et si réputé. Fraîchement repeint, surmonté d'une immense tour en acier, typique des mines qui contrôlaient les ascenseurs. Thomas Grishkoviak servait de guide aux 3 Français. Il était le contact Interpol et Europol sur place. Officier du KGP, Komenda Glovna Policy, les instances dirigeantes de la police polonaise. Homme élégant en costume, approchant la 40aine, cheveux courts, lunettes de soleil sur le bout du nez. Il parlait un anglais excellent. Dès qu'ils pénétrèrent dans le hall d'entrée, Thomas les présenta à un individu au physique de bûcheron. Main immense, épaules larges, crâne presque rasé de ses cheveux gris, nez écrasé et ventre proéminent. L'inspecteur Jurek est en charge de l'investigation. Il travaille pour notre central Nebureau Sledche, qui est un peu votre police judiciaire, si je ne me trompe pas. Ludivine le salua et enchaîna aussitôt. C'est vous qui êtes aussi en charge des meurtres précédents ? Jurek ne parle pas anglais, intervint Thomas. Je ferai la traduction si nécessaire. Mais vous pouvez aussi me demander. Je connais bien les dossiers. Depuis votre note à Interpol, je m'y suis intéressé de très près. Et pour vous répondre, oui. L'inspecteur Jurek est aussi sur l'enquête de Kidaska, la prostituée retrouvée avec le dessin étrange que vous recherchez. Des avancées sur ce dossier ? Pas grand-chose. Nous vous présenterons tout en détail cet après-midi à nos bureaux. Le tueur est méticuleux. Il ne laisse pas de témoins. Il évite toutes les zones avec des caméras. C'est un malin. La victime comportait des traces de morsures, c'est ça ? Oui, nombreuses. Et des morceaux de chair manquants. Comme si une bête sauvage l'avait partiellement dévorée. Ce que nos spécialistes réfutent. Ça ne ressemble pas à une attaque animale, même post-mortem. Le dessin, étoile E, était taillé sur sa peau. C'est comme ça que vous avez fait le lien avec notre enquête, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout comme pour le crime qui a eu lieu entre ces murs. Nous avons sauté dans le premier avion. Nous ne savons presque rien de ce nouvel homicide. Avoir le monde devant la mine, toute la Pologne est sur le coup ? C'est que vous êtes dans un lieu très prisé. Et aussi un lieu pieux. Ludivine se tourna pour vérifier les photos et accessoires touristiques, tous tournés sur l'aspect minier de Vielitschka. Je croyais que nous étions dans une mine de sel. Il y a aussi une église sous nos pieds, une des plus respectées et célèbres de notre nation. Et le crime a eu lieu à l'intérieur de cette église ? À vrai dire, il s'agit plus d'une profanation. Il n'y a pas de cadavre ? Si. Hélas, si. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un crime dans la mine et une profanation dans l'église. Il n'y a pas qu'une seule victime ? Il y en a deux. Mais la première a servi de répétition pour s'entraîner. Ludivine et Michaelis échangèrent un regard étonné.
S'entraîner à quoi ?
Demanda le criminologue. Je crois qu'il est préférable que vous descendiez. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. La gendarme inclina la tête, surprise. Vous voulez dire que les corps sont encore en bas ? Ça fait combien de temps ? 48 heures que vous les avez trouvés, non ? Les corps sont avec notre équipe médico-légale, à l'hôpital. Mais le reste est encore ici, oui. À ma demande. Puisque Europol nous a demandé une coopération totale, j'ai pensé que vous deviez voir ça en l'état.
Le reste,
répéta Michaelis. Thomas se mordit l'intérieur des lèvres. Et il leur fit un geste de la main, pour les inviter à le suivre, en direction des profondeurs de Vielitschka.